J'avais beau la guetter de loin depuis plusieurs minutes, je ne reconnus vraiment Zora Zorkin que lorsqu'elle fut à un mètre de moi. Même si elle était plus âgée, elle ressemblait à n'importe laquelle des étudiantes de la NYU qui peuplaient Washington Square. Jean, t-shirt, sac à dos, paire de sneakers. Je suis, commençai-je en me levant. Je sais qui vous êtes. Je sentis une main sur mon épaule. Je me retournai pour découvrir la carrure imposante de Blunt Liebowitz. Le garde du corps me palpa des pieds à la tête et me confisqua mon téléphone, sûrement pour éviter que j'enregistre la conversation. Puis il alla s'asseoir sur un banc à 10 mètres des tables de jeu d'échecs. Zora prit place devant moi.
« Je crois que vous vouliez me voir, monsieur Barthélémy. »
Elle avait une voix claire et plutôt douce, à l'opposé de ce que je m'étais imaginé. « Je sais tout, » dis-je. « Personne ne sait tout, et vous moins qu'un autre. Vous ne savez pas quelle est la capitale du Botswana, vous ne savez pas quelle est la monnaie du Tadjikistan, ni celle du Cambodge, vous ne savez pas qui était président des États-Unis en 1901, ni qui a mis au point le vaccin contre la variole. » Elle commençait fort. « Vous voulez vraiment qu'on joue au Trivial Poursuite ? » ?»«
Qu'est-ce que vous croyez savoir, monsieur Barthélémy ?»«
Je sais que quelque part en France, vous détenez ma compagne Claire Carlyle, la fille illégitime du gouverneur Copland. Je sais qu'il y a 11 ans, vous ou lui ou votre gorille, là-bas, avez tué sa mère, Joyce, l'ancienne maîtresse du gouverneur. » Elle était attentive, mais pas troublée par mes révélations.
En période de campagne électorale, je reçois une centaine de lettres anonymes de ce genre tous les matins. Le gouverneur est un extraterrestre, le gouverneur est scientologue, le gouverneur est une femme, le gouverneur est un vampire, le gouverneur est zoophile. C'est le lot de tous les hommes politiques.
Sauf que moi, j'ai des preuves.
Je suis bien curieuse de savoir lesquelles.
Elle jeta un coup d'œil à l'écran de son cellulaire qu'elle avait posé sur la table. Son portable chauffait. Des alertes partout et des textos qui clignotaient sans arrêt. Je désignai le garde du corps d'un geste du menton. « L'ADN de votre oncle, Blunt Liebowitz, a été retrouvé sur la scène de crime de Joyce Carlyle. » Elle eut une moue dubitative. « Si c'était vraiment le cas, je pense que la police l'aurait interrogée à l'époque. » À l'époque, elle ne savait pas. C'est différent aujourd'hui. Je sortis de ma poche les pages arrachées au livre qu'avait retrouvé Alan. Il y a aussi ces photos de Joyce et du sénateur. Elle les regarda sans montrer le moindre signe d'étonnement.
Oui, ces photos sont connues. Elles sont très jolies d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elles prouvent? Que Tad Copland et cette jeune femme s'entendaient bien? C'est normal, non? À ma connaissance, c'est lui qui l'avait engagée.
Ces photos établissent un lien qui, elle me coupa d'un geste évasif. Si c'est vraiment tout ce que vous avez en magasin, vous ne trouverez personne pour écouter vos sornettes ni pour les relayer. Je crois, au contraire, que les journalistes seront ravis d'apprendre que vous avez tué froidement une de leurs consoeurs, Florence Gallo.
Elle le prit avec dérision. J'ai eu en effet très souvent envie de tuer certains journalistes lorsqu'ils faisaient montre dans leurs articles de mauvaise foi, d'incompétence et d'indigence intellectuelle, mais je me suis toujours retenu de passer à l'acte.
Voyant que j'étais dans une impasse, je changeai de stratégie. Écoutez, Zora, je ne suis pas flic, je ne suis pas juge. Je suis seulement un homme qui veut retrouver la femme qu'il aime.
C'est touchant, vraiment.
Claire Carlyle a caché son identité pendant 10 ans. Je pense même qu'elle ignore qui est son père. Relâchez-la, et plus jamais vous n'entendrez parler de nous.
Elle secoua la tête d'un air moqueur. Vous voulez passer un marché, mais vous n'avez rien de tangible dans votre musette.
Dépité, je ne pouvais qu'admettre qu'elle avait raison. Avec Marc, nous avions mené une enquête sérieuse qui nous avait permis de reconstituer un puzzle incroyablement complexe. Mais aucun des éléments que nous avions collectés ne pouvait à lui seul servir de monnaie d'échange. Nous avions mis à jour la vérité, mais il nous manquait le plus important, la preuve de la vérité. 4. Le sanctuaire de la mémoire. Marc Karadec et Hélène Kowalkowski pénétrèrent dans la chambre de Tim avec la même solennité que dans une chapelle. La pièce donnait l'impression que l'ado s'était juste absenté quelques heures pour se rendre au collège ou chez un copain, et qu'il allait bientôt débarquer, jeter son sac à dos sur son lit avant d'aller se préparer une tartine de Nutella et se servir un verre de lait. Une illusion à double tranchant, d'abord réconfortante, puis dévastatrice. En faisant craquer le parquet,
Marc s'avança au centre de la chambre, éclairé par une ampoule qui grésillait. Une drôle d'odeur de menthe poivrée traînait dans l'air. À travers la fenêtre, malgré la nuit, on apercevait le pignon menaçant du toit de la grange. Tim rêvait d'intégrer une école de cinéma, expliqua Hélène en désignant les murs tapissés d'affiches de films. Marc lança un regard circulaire. Au vu des affichettes, le petit avait bon goût. Memento, Requiem for a Dream, Old Boy, Orange Mécanique, Vertigo. Sur les étagères, des rayonnages de BD, des figurines de héros de comics, des piles de magazines de cinéma, des CD de chanteurs ou de groupes dont Karadec n'avait jamais entendu parler. Elliott Smith, Arcade Fire, The White Stripes, Sufjan Stevens. Posé sur l'enceinte d'une chaîne IFI, un caméscope HDV. Un cadeau de sa grand-mère, précisa Hélène. Tim consacrait tout son temps libre à sa passion. Il réalisait des courts-métrages amateurs. Sur le bureau, un combiné de téléphone Darth Vader, un pot à crayon, une boîte en plastique contenant des DVD vierges, un mug à l'effigie de Jessica Rabbit et un vieil iMac G3 coloré. « Je peux ?» demanda Karadec en désignant l'ordinateur. Hélène acquiesça de la tête. « Je l'allume parfois pour regarder ses films ou ses photos. Ça dépend des jours, mais généralement ça me fait plus de mal que de bien. » Marc s'assit sur le tabouret pivotant en métal. Il fit jouer le clip pour abaisser le siège et mit l'ordinateur sous tension. La machine émit un souffle furtif qui s'amplifia. Une invitation à saisir un mot de passe s'afficha sur l'écran. « J'ai mis presque un an à le trouver », avoua Hélène en s'asseyant à son tour sur le bord du lit. « MacGuffin. Ce n'était pourtant pas difficile à deviner. Tim vénérait Hitchcock. » Marc entra les 9 lettres et atterrit sur le bureau et ses icônes. En fond d'écran, le gamin avait mis la reproduction d'un dessin de Dali, Saint-Georges et le dragon. Soudain, une détonation claqua. L'ampoule du lustre venait de rendre l'âme, dans une explosion qui fit sursauter Marc et Hélène. Désormais, la chambre n'était plus éclairée que par l'écran de l'ordinateur. Marc déglutit. Il ne se sentait pas très à l'aise dans cette obscurité. Un courant d'air balaya l'arrière de son cou. Il crut voir une ombre passer sur lui. Il se retourna brusquement, devinant une autre présence dans la pièce. Mais à part Hélène, fantôme fatigué au visage cireux, il n'y avait personne dans la chambre. Il revint à l'écran et lança la messagerie. Comme l'avait précisé la mère de Tim, il n'y avait pas de connexion Internet et le compte associé n'existait plus depuis des années. Mais les messages déjà téléchargés étaient restés prisonniers des entrailles de la machine. Avec la souris, Marc fit défiler les messages jusqu'à la date fatidique du 25 juin 2005. Il sentit ses yeux picoter et ses poils se dresser sur ses avant-bras. Le mail qu'il cherchait était là, envoyé par Florence Gallo. Lorsqu'il cliqua pour l'ouvrir, une onde polaire lui traversa le corps. Le message ne contenait aucun texte, juste un fichier audio intitulé Carlyle.mp3. Une boule dans la gorge, il alluma les enceintes de l'ordinateur et lança l'enregistrement. Celui-ci était éloquent. La voix de Joyce était telle qu'il l'avait imaginée, grave, chaude, éraillée par la rage et le chagrin. Quant à la voix de l'homme qui l'avait assassiné, elle ne lui était pas inconnue. Quand Marc comprit de qui il s'agissait, il réécouta pour être certain de ce qu'il avait entendu. Incrédule, il vérifia une troisième fois, pensant que son anglais le trahissait. Il resta pétrifié pendant quelques secondes. Puis il décrocha le téléphone à l'effigie de Darth Vader et composa le numéro de Raphaël. Il tomba sur son répondeur. « Raph, rappelle-moi dès que tu peux. J'ai trouvé l'enregistrement effectué par Florence Gallo. Écoute un peu ça. » 5. Si vous n'avez rien d'autre à me dire, cette conversation est terminée, monsieur Barthélémy. Alors que Zora s'était déjà levée, Blunt revenait vers nous, le visage fermé. Il tenait mon portable à la main. Son téléphone vient de sonner, expliqua-t-il à sa nièce. Comme personne n'a répondu, un dénommé Karadec a laissé un message. Tu l'as écouté ? Le garde du corps hocha la tête. Oui. Et je pense que tu devrais faire de même. Tandis qu'elle prenait connaissance du message, je restais suspendu à l'expression de Zora, guettant chaque battement de ses cils, traquant le moindre frémissement sur son visage impassible. Lorsqu'elle raccrocha, j'étais bien incapable de savoir ce qu'elle avait appris. C'est seulement lorsqu'elle décida de se rasseoir que je me dis que le rapport de force ne m'était peut-être pas aussi défavorable. « Est-ce que Claire est en vie ?» demandai-je. « Oui, » répondit Zorkin sans détour. Je ne pris même pas la peine de contenir mon profond soulagement. « Où est-elle ?» « Détenue quelque part à Paris, sous la surveillance de Richard Angeli. »«
Je veux lui parler immédiatement !»
Zora secoua la tête. « On va faire comme dans les films. Claire sera libre dès que j'aurai une copie de cet enregistrement et que vous aurez détruit l'original. »«
Vous avez ma parole. »«
Je me fous de votre parole. » Tout ça me paraissait trop simple.
« Qu'est-ce qui vous garantit que je ne finirai pas par le rendre public ?» demandai-je.
« Qu'est-ce qui vous garantit que, si Copland et moi accédons à la Maison-Blanche, un officier des forces spéciales ne viendra pas un beau matin vous mettre une balle dans la tête ?» répondit-elle. Elle laissa le temps à sa répartie de produire tout son effet, avant d'ajouter « Il n'y a pas de situation plus stable que l'équilibre de la terreur. Chacun de nous dispose de l'arme nucléaire. » Et le premier qui tente de détruire son adversaire s'expose au risque d'être détruit à son tour. Je la regardais avec perplexité. Je trouvais sa capitulation un peu rapide, et je ne saisissais pas la lueur de satisfaction qui brillait dans son regard. Je crois qu'elle perçut mon trouble. « Vous n'avez pas perdu, et c'est moi qui ai gagné, Raphaël. Vous savez pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas la même guerre, et que nous n'avons pas les mêmes ennemis. » Je me souvins de ce que m'avait dit Alan. Zora avait toujours plusieurs coups d'avance. Qui est votre ennemi?
Vous savez comment se comportent les hommes politiques lorsqu'ils arrivent au pouvoir, Raphaël? Ils ont souvent la tentation d'écarter tous ceux à qui ils doivent leur victoire. C'est tellement plus rassurant de croire qu'on y est arrivé seul.
Cet enregistrement, c'est votre assurance-vie, c'est ça?
C'est la certitude que Copland ne pourra jamais me mettre sur la touche. Car j'ai désormais de quoi l'entraîner dans ma chute. L'équilibre de la terreur, murmurai-je. C'est le secret des couples qui durent. Pour vous, la conquête du pouvoir excuse tout, n'est-ce pas? Dans la mesure où l'exercice de ce pouvoir sera bénéfique au plus grand nombre, je me levai pour quitter la table de jeu d'échecs. Je n'ai jamais supporté les gens comme vous.
Ceux qui agissent pour le bien de leur pays, me nargua-t-elle.
Ceux qui s'imaginent au-dessus d'un peuple infantilisé qui serait incapable de choisir lui-même son destin. Dans un état de droit, même la politique obéit à des règles.
Elle me regarda avec condescendance. L'état de droit est une chimère. Depuis la nuit des temps, le seul droit qui existe, c'est le droit du plus fort.